Bien, j'ai conscience d'intervenir à une heure qui n'est pas facile pour l'écoute, mais nous avons l'habitude de parler tard, quelquefois, et d'essayer de retenir l'attention, en dépit de certains bâillements. Je voudrais simplement dire tout de suite, pour réagir à deux ou trois propos que j'ai entendus, et je saisis l'occasion puisque on me tend la perche. Tout d'abord la réaction de dire c'est à l'image de la société. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que on parle d'éthique et nécessairement on essaye d'élever le débat et d'avoir une attitude qui n'est pas forcément celle de la société et de la corriger. Et donc, comme vous disiez, d'écouter un peu ceux qui doivent partager notre expérience et nous faire prospérer dans une réflexion plus approfondie. Donc, que la société soit à cette image-là, soit, mais ce n'est pas une raison pour en partager la vision et le comportement. Nous devons effectivement avoir un effet d'entraînement. Je voulais réagir aussi à vos propos, Monsieur Hirsch, parce que à deux reprises, et c'est l'introduction à ce que je vais dire dans quelques instants, il y a eu deux interpellations vis-à-vis de la norme juridique ou de l'attitude judiciaire en disant mais finalement elle est allée voir le procureur. Et peut-être qu'il y a un risque judiciaire. Bon. Mais le procureur ou un juge, quel qu'il soit, c'est un arbitre. Et quelquefois, l'arbitre est absolument nécessaire, notamment dans un conflit et dans une opposition. Et je crois que ça peut être salvateur. Et ensuite, le risque judiciaire, il existe parce que peut-être qu'il y a une méconnaissance en amont des règles juridiques. Et peut-être d'une conduite qui méconnaît totalement la dimension juridique. Parce que je suis un peu déstabilisé ce soir, je dois le dire, parce que j'ai l'impression, je vais m'exprimer par rapport à quelque chose qui me semble complètement absent de vos préoccupations. Mais j'ai un peu l'habitude parce que c'est pas le seul domaine dans lequel les considérations juridiques ne sont pas prises en considération. Alors c'est peut-être un réflexe tout à fait normal, mais en fait que j'appréhende comme normal a priori. Je l'accepte d'autant plus que depuis un an que Thierry Danel a bien voulu m'associer aux travaux de la Fédération de santé mentale, je découvre un univers que je ne connaissais absolument pas. Et je mesure, en quelque sorte, le fossé qui sépare un certain monde médical d'un certain monde judiciaire et d'un aspect de la médecine dont le monde judiciaire et juridique est totalement absent. Et je vais revenir là-dessus parce que je me suis posé la question du thème de ce soir de manière un peu différente. En ce sens que je suis un juriste et je reviens toujours au texte. Et j'avais le titre de cette intervention qui était « Quelle attention aux proches en santé mentale ?» Donc d'abord je me suis attaché à la santé mentale et je me suis attaché à la notion de proche. Et je me suis posé la question de savoir si moi, avocat, j'étais un proche ou un intrus. Et comme je suis toujours un juriste et que je reviens toujours au texte, quand je pose une définition, j'essaye d'avoir le sens des mots. Et je vais au dictionnaire quand il s'agit d'analyser tel ou tel mot. Et un proche, qu'est-ce que c'est ? Qui est prêt dans l'espace, dans le temps, lié par la parenté, peu différent d'eux. Et un intrus, à l'inverse, se définit comme un élément qui, mis à côté des autres, n'a aucun rapport avec ceux-ci. D'où l'expression « chercher l'intrus ». Personne inconnue qui s'introduit par effraction, par extension, quelqu'un d'importun, d'indésirable. Et les avocats ont souvent le sentiment, réel ou imaginaire, d'être des intrus, et en tout cas d'être le poil à gratter d'un certain nombre de personnes ou de situations un peu complexes où ils viennent déranger en quelque sorte l'ordre établi, en toute bonne foi d'ailleurs. Ils sont d'autant plus des importuns qu'ils reviennent à des fondamentaux qui sont en quelque sorte les libertés individuelles, toutes celles qui sont définies par la Constitution, qui sont définies par les textes qui régissent la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté de se conduire dignement en société. Alors, j'ai voulu essayer de tester à l'occasion de ce débat le degré de proximité que l'avocat ou le monde judiciaire pouvait avoir avec la santé mentale. Et j'ai raisonné aussi un peu par analogie, puisque vous parliez du Talmud et puis du raisonnement par analogie. Quand j'approche le monde de la santé mentale que je découvre de plus en plus, j'ai deux réflexes. Je pense naturellement au droit pénal et au droit pénitentiaire dans un premier temps, et au droit des étrangers dans un second temps. Pourquoi le droit pénitentiaire ? Ça me paraît un peu évident, mais revenons quand même aux fondamentaux également dans ce domaine-là. C'est que, quelle que soit la considération qu'on peut porter, le jugement qu'on peut porter sur les individus qui vont purger une peine, le monde de la prison est un monde différent, c'est un monde à part qui est totalement autonome du monde normal qu'on vient de quitter pour intégrer une autre société qui a des règles spécifiques et qui aboutit à des comportements qui sont très différents, où la violence n'est pas exclue, mais j'allais dire que dans les hôpitaux où on traite un certain nombre de malades, la violence n'est pas exclue non plus. Et on peut raisonner également avec ces notions de liberté conditionnelle, de permission de sortie, d'accès aussi à une certaine liberté, parce que à l'intérieur même des prisons, vous avez un prétoire qui est destiné à juger les comportements antisociaux à l'intérieur de la prison, et on s'aperçoit qu'il est de plus en plus difficile de communiquer avec les détenus pour assurer leur défense, parce que vous avez généralement un cumul de fonctions entre le directeur de prison, qui est le président de séance pour apprécier les comportements, et généralement un ou deux surveillants qui sont à la fois les témoins des agissements des détenus et qui vont être leurs juges. Bon. Et ensuite, une fois que la sentence est rendue, pour pouvoir obtenir copie de la décision, ou pour pouvoir communiquer pour savoir si on va exercer un recours contre la décision qui a été rendue, on ne peut pas communiquer, un peu de même que dans un hôpital où, sous couvert d'un certain nombre de suivis médicaux, on interdira l'accès à un extérieur, et cet extérieur ça peut être l'avocat, mais ça peut aussi être la famille, parce qu'on considérera que le soin est incompatible avec un contact extérieur. On ne peut même pas utiliser de téléphone pour communiquer. On peut éventuellement écrire avec les difficultés que ça suscite, mais j'y reviendrai dans quelques instants. En tout cas, il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut établir, et un parallèle d'autant plus précis que maintenant, peut-être plus pour très longtemps, mais vous avez le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui exerce à la fois ce contrôle aussi bien dans les prisons que dans les hôpitaux psychiatriques. Bon. Alors je dis peut-être plus pour très longtemps, parce que on va fusionner la halle, le défenseur des enfants, le contrôleur général des lieux de détention, avec une autorité unique qui n'aura pas vraisemblablement la même autonomie et en tout cas le même pouvoir d'observation sur l'ensemble de ces lieux qu'il était chargé de vérifier. Alors, seconde hypothèse et second parallèle, c'est effectivement le droit des étrangers. Et j'ai cru comprendre dans les propos des uns et des autres que le malade mental était un peu un étranger. De la même manière que ces individus qui se retrouvent en France et qui n'ont pas commis d'infraction. Ils sont simplement dans une situation illégale, ce qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'à la faveur de lois diverses et variées, en fonction de contingences politiques ou économiques, on va constater que tel individu n'est pas en situation régulière et on va le mettre dans un lieu de rétention. Et L'autre parallèle qu'on peut faire dans le cadre du droit des étrangers, c'est la dualité des compétences judiciaires, aussi bien en matière hospitalière, en santé mentale, qu'en matière de droit des étrangers, c'est-à-dire qu'on a à la fois une compétence administrative et une compétence judiciaire, avec, dans les deux cas, des procédures d'urgence, que ce soit le référé liberté ou le référé administratif, mais vous avez cette dualité qui complexifie encore les situations. Et vous avez la même chose en santé mentale. Vous avez l'acte administratif, la contestation de l'acte administratif, et vous avez ce qui est quasiment pas utilisé en France, et en tout cas à Lille, un peu plus maintenant, parce qu'il y a des requêtes devant le juge des libertés et de la détention, mais c'est quasiment pas connu. Bon. Alors, tout ceci pour dire qu'il y a des parallèles à établir en fonction des situations et en fonction des contentions. En tout cas, c'est moi je l'approche de cette manière-là pour pouvoir essayer de comprendre le mécanisme et le phénomène que vous avez à gérer en tant que professionnel de santé. Et tout ce qui s'y rattache, d'ailleurs. Alors, proche, la proximité, elle va peut-être venir indirectement de par le juge. Il y a une innovation fondamentale, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est pas facile à dire, d'ailleurs Rachida Dati n'a pas toujours réussi à le dire, mais enfin moi j'y arrive, et je ferai pas de lapsus. En tout cas, cette question prioritaire de constitutionnalité donne à tout citoyen, à l'occasion d'une procédure, de poser la question de la conformité des principes généraux au cas particulier qu'il concerne. Et vous avez, en ce qui vous concerne, dans le cadre de la santé mentale, une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée, en tout cas admise, fin septembre 2010 par le Conseil d'État et qui a été transmise au Conseil constitutionnel et qui concerne 8 dispositions de code de santé publique concernant l'hospitalisation en santé mentale. Et que ça a des conséquences, puisque le Conseil constitutionnel se prononcera vraisemblablement d'ici quelques mois, et qu'en tout cas, en l'état, ça gèle la nouvelle loi qui avait été soumise à l'examen du Conseil des ministres au mois de mai 2010. Et donc, on diffère d'autant, parce qu'on va reconsidérer le problème des libertés fondamentales par rapport à cette question de la loi existante et de son applicabilité. Donc, ça va vous contraindre, et ça va nous contraindre également, puisque c'est désormais la loi, d'examiner ce problème des libertés fondamentales en application avec des comportements qui ont été jusqu'à présent admis parce que conformes à la Constitution, mais plus forcément dans l'avenir et plus forcément par rapport à une loi nouvelle. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je constate que l'avocat n'est pas un proche, même s'il n'est pas encore un intrus pour la santé mentale, parce que nous sommes singulièrement absents. On est absent parce que c'est un droit qui est mal connu, donc mal pratiqué par les avocats et peut-être même par les juges qui n'ont pas forcément la pratique de ces questions, puisqu'on ne leur soumet pas la question. Ils n'ont pas à trancher. L'essentiel de la jurisprudence se situe en droit administratif quand il s'agit effectivement d'indemniser des comportements qui sont anormaux. Pour utiliser un terme modéré. Et le problème se pose de savoir quelle indemnité on va donner au patient qui se prétend lésé ou à la famille quand effectivement il y a un dommage collatéral, si je puis dire, à l'occasion d'une hospitalisation abusive ou des conditions dans lesquelles on a été hospitalisé. Mais vous avez un certain nombre de phénomènes singuliers. Vous avez un peu comme en garde à vue la déclinaison des droits à celui qui va rentrer dans un lieu privatif de liberté. Et on énonce effectivement dans la loi qu'on peut avoir recours à un avocat. Mais je n'ai jamais vu un tableau de l'ordre, par exemple. Alors c'est peut-être ma faute parce que je suis bâtonnier et je devrais peut-être diffuser ce tableau, et je vais y penser d'ailleurs. Ce tableau n'est affiché dans aucun hôpital. ou quasiment aucun, et en tout cas pas dans les hôpitaux de santé mentale. Je souhaite être détrompé, mais je ne pense pas, puisque c'est moi qui le diffuse. Donc, je ne pense pas qu'il y soit, mais je vais essayer qu'il y soit désormais. Mais en tout cas, je suis désolé, mais j'essaye de comprendre ce qui se passe, et puis je... voilà. Mais, quel est le réflexe primordial par rapport à cette information? Encore un gardé à vue. Bon, il va avoir ce réflexe-là parce que, effectivement, ça lui paraît essentiel, mais le malade qui rentre dans un hôpital, je ne suis pas certain que c'est une portée vraiment pratique, concrète. Bon, la pratique vraiment concrète, ce serait effectivement, et là je vais encore plus loin que le tableau de Nord, tu m'excuseras, ce serait peut-être la présence effective d'une consultation juridique sur place. On a lancé à Lille, il y a 2 ans, les consultations pour les victimes. Et on a externalisé les consultations dans un certain nombre de mairies pour essayer de couvrir le ressort du tribunal de grande instance de Lille. Et donc c'est une expérience qui marche très bien, c'est saturé, à tel point, et ça a été ma plus grande satisfaction, c'est de voir que les responsables de la caisse primaire d'assurance maladie sont venus me voir pour me dire bah, « nous on est à la source de la difficulté, à la source du droit des victimes, puisque on traite ça quasiment quotidiennement dans la majorité des cas, et venez donc, on vous met un bureau à disposition et vous allez faire vos consultations sur place à la caisse primaire d'assurance maladie. » Ce qu'on fait. Et effectivement, ça ne désemplit pas. Bon. Donc, il y a peut-être un réel problème de communication, de collaboration, d'information, dont je suis le premier responsable sans doute, puisque je n'ai pas fait cette démarche vis-à-vis des hôpitaux, mais en tout cas, j'évoque la question, et je ne sais pas si ça va déclencher l'enthousiasme, mais en tout cas, je suis dans mon rôle, donc j'assume parfaitement cette éventuelle initiative. Autre chose, c'est que vous savez qu'il y a une commission départementale des prisons, et le préfet, le procureur de la République, tous les acteurs qui agissent dans le cadre de la détention et tout ce qui s'y rapporte, se réunissent régulièrement et puis inspectent les lieux où il y a effectivement une privation de liberté. Il y a la même chose au niveau des établissements de santé mentale, puisqu'il y a une commission régionale, il y a le procureur de la République, il y a le préfet, il y a le tribunal d'instance, il y a le président du tribunal de grande instance, il n'y a pas le bâtonnier, alors que je suis effectivement présent dans la commission prison. C'est une autre anomalie. Je découvre, à la faveur de certaines lectures, qu'il y a des chartes de qualité, on va dire ça comme ça, qui sont posées par les hôpitaux, par les fédérations de santé mentale, et on décline effectivement tout un processus qui est digne d'éloge, parfaitement, mais où le risque juridique est totalement éludé. C'est-à-dire qu'on parle même pas, il n'y a pas de référence juridique. C'est-à-dire que même pour soi, parce que on peut voir certains certificats médicaux, c'est pas de ça dont je veux parler, qui permettent l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office, qui sont approximatifs pour certains d'entre eux et qui donnent lieu à des décisions de jurisprudence. Je ne parle pas de ça. Chacun assume ses responsabilités là où il se trouve, mais quand vous êtes dans une unité psychiatrique, avec une foultitude d'intervenants, avec des pratiques qui sont concertées, avec des règles extérieures sur le droit des malades, sur un certain nombre de choses, vous êtes comme toute entreprise de droit privé, vous devez intégrer le risque juridique. Alors, je vais faire une digression, je ne peux pas m'en empêcher, parce que il y a des juristes d'entreprise à l'interne des sociétés, et vous avez des services juridiques à l'interne de vos unités psychiatriques. Je le sais, il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème, c'est la question de la confidentialité, parce qu'on parle du tiers de confiance, on parle de secret partagé. Mais avec qui vraiment partager un secret? Avec ceux qui sont tenus au même secret professionnel. Avec ceux qui sont tenus au même secret professionnel. Moi, mon secret professionnel, il était absolu. Il est même bien supérieur à celui du médecin. La seule entorse qu'on voit récemment, elle vient de l'Europe, et elle concerne le blanchiment d'argent. Cette question où nous freinons des cas de fer parce que nous avons toujours dit que nous n'étions pas les complices de nos clients et que nous n'étions pas non plus les délateurs et les serviteurs du parquet. Mais notre secret est véritablement absolu. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'avocat en entreprise. C'est une évolution de la profession d'avocat. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger la relation qui peut exister entre un juriste dont le secret professionnel est protégé, avec son interlocuteur, fût-il son supérieur hiérarchique, pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause et en toute indépendance. Et vous, je regrette, vous n'avez pas ça. Vous n'intégrez pas le risque juridique en tant que tel, déjà, et ceux à qui vous vous fiez sont vos subordonnés, c'est pas péjoratif. Mais ça veut dire simplement que tout ce que vous échangez entre vous n'est pas couvert. C'est-à-dire que si vous avez un juriste qui vous remet une note technique, juridique, sur un cas de responsabilité ou sur une perspective de risque, si effectivement le risque est avéré et qu'il aboutit à une procédure, on pourra d'autant mieux démontrer que vous étiez informé, parce qu'il n'y aura pas de confidentialité sur le document qui pourra être saisi dans le cadre de cette situation-là. Moi, j'ai le risque avec un expert comptable. Si je communique avec un expert comptable, je ne peux pas communiquer n'importe comment parce que je sais qu'ici, il y a une saisie ou une perquisition chez un expert comptable, mon document n'est plus confidentiel. Donc ça, je ne le fais pas. Mais ce qui vaut dans cet exemple-là vaut à l'interne dès l'instant où vous n'avez pas un secret professionnel partagé de la même manière. Et donc, quand vous évoquiez le tiers de confiance, quand vous évoquiez la personne extérieure, moi, je pensais à d'autres situations où l'avocat intervient de plus en plus. Vous avez le mandat de protection future. C'est quoi ? C'est effectivement, on est sur le chemin effectivement du tiers de confiance en matière de d'hospitalisation en santé mentale, parce que vous avez quelqu'un en qui on peut avoir confiance parce que on donne des instructions dans le cadre d'une déontologie et d'une éthique qui est certifiée par la loi et par un règlement intérieur national qui est le nôtre, et avec un comportement dont on ne peut pas se méfier et qui ne sera pas dans l'affectif, même s'il est dans l'humain. Il ne sera pas dans l'affectif. Et ça, c'est important. Je crois que dans le propos, j'ai cru discerner, M. Hirsch, que vous essayez de mettre un peu de distance par rapport à ce proche, tout simplement parce qu'on avait tendance, avec les trop proches, à se situer dans l'affectif et non plus dans la conscience claire de ce qu'il fallait faire. Faire un testament, on le fait à une certaine époque, on le fait avec un certain état d'esprit, on ne revient pas forcément dessus alors que la psychologie tout simplement l'équilibre personnel s'est modifié avec le temps. Donc on peut disposer également pour d'autres choses, même si notre comportement futur sera modifié. Donc on peut aussi disposer pour l'avenir d'un certain nombre de comportements, sachant qu'on sera nécessairement dans l'altération future. Bon. Alors tout ceci pour ouvrir des pistes de réflexion, parce que j'ai déjà été trop long et j'ai pas été aussi sourcilleux que vous par rapport à mon propos, parce que j'ai jeté un certain nombre de réflexions un peu en vrac, mais je pense qu'il faut, aussi bien pour nous les avocats, pour le barreau et pour les magistrats, mais je crois qu'Aline, les magistrats commencent à avoir cette conscience de la situation des libertés individuelles en ce qui concerne l'hospitalisation en santé mentale. En tout cas, ça commence à se développer. J'ai remarqué qu'il y a une augmentation des requêtes et donc des décisions. C'est pas encore une pratique partagée en ce qui concerne les avocats, mais ça va forcément venir. Il faut y réfléchir, il faut s'investir. Alors j'ai lancé effectivement des options. Je pense que la Fédération de santé mentale a intérêt également à développer ce qui a été fait et ce qui est salutaire, parce que encore une fois, c'est un monde que je découvre et je pense que vous allez découvrir le nôtre également. Hein. On doit avoir des visions partagées qui sont importantes. Et donc je vous félicite de m'accueillir et d'accueillir donc le droit par ma personne, parce que nous sommes demandeurs également de cette éthique qui vous concerne, parce que trop souvent, on a tendance, dès l'instant où il s'agit de praticiens, de considérer que tout est bien fait parce que c'est du soin qui est apporté. ça a été dit à un moment, mais c'est vrai qu'on a aussi ce réflexe-là. J'étais un peu taisant tout à l'heure parce que j'arrivais plus bien à situer le problème. Mais c'est vrai qu'on est un peu respectueux de l'acte thérapeutique parce que nous, on ne sait pas. Et on se dit, et le patient encore plus, si c'est fait, c'est que ça doit être fait, et c'est pas forcément vrai, il y a une autre dimension, elle n'est pas forcément gênante, mais il faut introduire nécessairement la dimension juridique.
Merci, je pense que là il y a énormément de champs de réflexion et de recherche, ça mériterait effectivement un vrai projet. On peut peut-être vous proposer une ou deux questions, pas de trop.
Tout d'abord, pour dire, nous dans l'enseignement de master, le droit représente 30% de l'enseignement. Donc n'imaginez pas qu'on est à côté. Malheureusement, aujourd'hui, les pratiques médicales, c'est plus que du droit. C'est pas d'éthique. D'ailleurs, les gens, quand ils viennent chez nous, ils disent on n'a pas assez de droits. Voilà. C'est juste pour montrer un peu l'évolution et la perversion du système. Donc la question de la responsabilité morale est complètement compromise par la judiciarisation avec des protocoles, des prescriptions, des consensus. Donc la liberté d'appréciation, la relation spécifique à la personne malade est totalement entravée. Vous savez que les lois de bioéthique, vous savez qu'il y a une transposition dans le code civil. Enfin, je veux dire, donc on a ces questions qui étaient médicales, qui étaient des questions de déontologie, sont devenues des questions, j'allais dire, qui relèvent du législatif. On n'a qu'à se fixer, rêve d'organes, enfin, loi de bioéthique. Donc, là où je suis un tout petit peu réservé, c'est pour votre interprétation du secret médical. On parle d'information partagée. On ne parle pas de secret partagé. Un secret, par nature, ne se partage pas. Donc, dans tous les textes, on parle d'information. La seule levée de ce qu'on appelle le secret, ce serait des motifs médico-légaux, d'une certaine façon. Mais même cette notion-là, c'est par rapport à des informations médicales. Et le médecin, dans sa relation à une personne malade, ne dispose pas dans son échange que de données médicales. Il y a toute une partie sur la vie de la personne. Et vous avez un exemple très très concret qui a été très débattu ces dernières années. C'est le dossier médical personnalisé, où effectivement il y a eu une résistance extrêmement forte. La notion du masquage, la notion de non-traçabilité, la notion du devoir d'oubli ou de droit à l'oubli, etc. fait que ça a perturbé la mise en place du dossier médicalisé. Notamment sur la question des maladies psychiatriques, des maladies génétiques, et puis il y avait le sida en particulier, avec des problèmes éthiques et déontologiques, puisque un médecin qui ne pouvait pas accéder à l'exhaustivité d'un savoir sur l'histoire d'une maladie, ce qu'il était en capacité ou pas, et quel risque il prenait de traiter une personne avec des conséquences qui pouvaient être nuisibles, parce que, bon, tout ça pour dire que, mais pas mis du jeudi d'un point de vue éthique, hein, si on veut, que ces questions sont beaucoup plus débattues et qu'on parle de l'information, et il y a des niveaux d'information, il y a tout un débat avec la CNIL sur le cryptage des informations, qui accède ou pas. N'imaginez pas, aujourd'hui, effectivement, quand on voit certains hôpitaux avec le dossier médical qui était papier, on voit comment l'information n'avait pas besoin d'être partagée, elle était au vu au-dessus de tout. Mais là, il y a maintenant des formalisations, et dans les évaluations des établissements, on est extrêmement sur ce sujet. Et un dernier point, mais je ne vais pas vous débattre cette affaire-là, mais on a en matière d'éthique une réflexion extrêmement fine sur la privation limitée de liberté, avec tous les critères, tous les prérequis, la modalité de la prise de décision, avec la notion de proportionnalité, qui est une notion à prise en compte, avec une évaluation extrêmement subtile, mais avec beaucoup de données internationales, sur l'arbitrage entre les avantages et les inconvénients, selon le principe qu'il faut minimiser absolument tous les désavantages et maximaliser au maximum tout ce qui va dans l'ordre du respect de l'autonomie. Et je suis très admiratif, je termine là-dessus, il y avait d'autres choses, mais un dernier point, je terminerai sur un dernier point, c'est votre point initial. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était un des collègues psychiatres, des gens qui sont dans cette salle, qui systématiquement, même si la personne est en situation de crise, s'adressait à elle comme si elle était compétente pour décider. Elle dit, mais quel est vraiment l'intérêt de la chose? Il ne serait-ce que pour nous, pour se rendre compte qu'on n'a pas toute autorité et qu'il y a quand même une personne qui a une identité. Donc, je termine juste sur votre partie introductive. C'est pas pour aller dans le sens de ma femme, parce que nos controverses sont sans fin. Mais quand vous avez des personnes qui, effectivement, sont des magistrats, sont des avocats, sont des personnes qui sont dans la culture, finalement, d'un service, de l'autre, enfin, de faire valoir la position des plus vulnérables et des sans-voix, quand eux-mêmes sont entravés dans leur capacité d'exercer moralement leurs fonctions. Vous imaginez quand ces modèles deviennent défaillants dans la société, c'est comme quand nos responsables politiques sont dans l'incapacité d'assumer les responsabilités qu'ils souhaiteraient faire, ne serait-ce qu'au nom des mandats pour lesquels ils ont été élus. Et là, je crois que c'est un point qu'on ne peut pas mettre en parenthèse. combien on rencontre de professionnels, et pas uniquement parce qu'on a un biais de recrutement des gens qui viennent à l'espace éthique, mais en allant sur le terrain, qui aimeraient bien faire, qui aimeraient incarner les valeurs du soin, les traditions du soin, les valeurs de la démocratie, et qui ne le peuvent plus. Et qui sont dans des situations de souffrance, dans des situations de contradiction, où souvent ils sont tentés d'abdiquer, ils se disent on reste encore, peut-être que ça évoluera, et puis si nous on déserte, qu'est-ce qui restera derrière nous? Soit ils sont dans un renoncement, et j'allais dire, alors je ne vais pas parler du burn-out, mais ils font le minimum syndical, soit ils sont dans un abandonnisme qui devient désespérant, dans une publication tout à fait impressionnante, moi, qui m'a impressionné, de Louis Pubasset. Donc il a fait un collectif sur l'éthique et réanimation qui est sorti il y a quelques mois. Il y a trois chapitres qui sont consacrés au ravage des pratiques médicales sur les professionnels, ce qu'on ignore. Alors imaginez quand les professionnels sont ravagés et qu'ils ont affaire à des personnes qui attendent leur vie de leur capacité de sollicitude de care. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, mais j'étais attentif à vos propos, mais n'imaginez pas qu'on est indifférent à la question de l'éthique par rapport au droit. Malheureusement, aujourd'hui, on parle plus de droit que d'éthique chez nous, quoi.
Non, mais c'était une considération réciproque. Et je veux dire, quand j'entendais monsieur dire l'attitude des psychiatres ne répond pas aux besoins du patient ou de la famille, je croyais entendre des reproches qu'on pouvait adresser aux avocats ou aux juges. Parce qu'on est exactement dans la même situation et on n'est pas toujours en capacité de pouvoir répondre de manière utile et intelligente à l'inquiétude du justiciable.
Oui, une intervention très rapide parce que je suis un petit peu gêné, je ne me retrouve pas trop dans l'évocation que vous avez pu faire du rapprochement entre la prison et l'hôpital. Et je dois dire, nous n'avons pas attendu ces dernières années pour que le droit rentre à l'hôpital, bien évidemment. Je crois que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont plutôt, et vous avez évoqué le contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est plutôt dans des maisons de retraite qui devraient être ouvertes et qui sont fermées. Bien plus que dans les services de psychiatrie, je tiens à vous dire que nous sommes des citoyens, nous faisons très attention aux conditions d'hospitalisation des personnes. Les avocats, nous évoquons régulièrement quand il s'agit d'hospitalisation sous contrainte qui ne sont pas la majorité des hospitalisations, je vous le rappelle, dans nos services. Les trois personnes que j'ai vues ce matin dans le service, à qui je disais, écoutez maintenant, est-ce que vous pensez que les soins sont terminés, vous pouvez rentrer chez vous, ça va? Ils demandaient à rester. Donc j'insiste, parfois il faudrait d'ailleurs nous aider à aider les gens à sortir de l'hôpital, plutôt que se poser la question d'hospitalisation qui serait indue, abusive, arbitraire ou que sais-je. Dernière situation, la semaine dernière, nous avons accepté de la part d'un psychiatre pour une personne ressortissante française, service belge, nous adresse la personne en nous disant est-ce que vous pouvez, médico-social, est-ce que vous pouvez accepter cette personne pour revoir son traitement? Et une fois que c'est terminé, nous sommes d'accord bien évidemment pour reprendre cette personne qui réside donc dans ce lieu en Belgique. Les soins sont terminés, le service médico-social a refusé. Et donc il n'était plus question à ce moment-là que cette personne qui avait son lieu de résidence en Belgique y retourne, et nous avons fait pression pour que cette personne retrouve son logement en Belgique, à la frontière. Donc la situation c'est ça aujourd'hui. 90% des situations que nous avons à gérer, c'est sur le secteur d'ailleurs, c'est sur le territoire, c'est plus à l'hôpital. Et nous sommes aujourd'hui les derniers à intervenir dans des zones extrêmement sensibles. Je dis bien les derniers, il n'y a plus personne. Et je suis d'accord tout à l'heure quand il a dit que bien souvent les proches, ce sont les professionnels. Nous sommes les seuls à intervenir tellement le tissu social est abîmé, détruit, etc. Donc moi je suis d'accord avec vous, M. Provost, l'UNAFAM. Nous avons, et aussi avec les représentants de la mairie de Lille, parce que nous avons un espace à créer ensemble pour ne plus rester dans une position qui est indéfendable aujourd'hui, de ne plus aller au-devant d'un certain nombre de demandes qui ne peuvent s'exprimer. Nous sommes d'accord et nous le faisons. Mais nous avons à créer un espace de concertation ensemble pour pouvoir évoquer ces situations au niveau territorial. Voilà, donc oui, mais encore une fois, je tiens à dire que les professionnels qui sont d'ailleurs dans cette salle, qui depuis 15-20 ans travaillent dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, ne soient pas renvoyés, si vous voulez, un peu quand même, à un rapprochement avec le milieu carcéral. Ça, je crois que vraiment, nous avons fait des manifestations au niveau national, bien avant d'ailleurs les autres spécialités, incluant les représentants des associations d'usagers, M. Etuel le sait bien, et les associations de familles. M. Provost, M. Esquègue, M. Canva, Mme Finkelstein le savent bien. Ça fait 10 ans que nous faisons ça. Je crois que d'autres disciplines pourraient effectivement réfléchir à intégrer aussi les usagers. Et c'est peut-être la grande avancée de ces dernières années, ça j'en suis absolument persuadé. Donc la réflexion éthique, oui, ensemble. Mais vous l'avez remarqué, plus on avance dans la réflexion éthique, plus on se préoccupe de la douleur, plus les Français eux-mêmes, dans un sondage récent, sont pour l'euthanasie. Est-ce que vous avez remarqué ces proximités? Voilà, j'en ai terminé, merci.
Je voudrais simplement répondre. J'ai l'habitude de cette sensibilité réactive quand j'évoque des analogies qui sont peut-être un peu malvenues quand vous êtes dans l'un ou dans l'une ou l'autre des situations. Simplement, ce n'est jamais une question de personne. C'est une question de mécanisme institutionnel qui vous échappe et qui m'échappe. Simplement, quand je fais ce parallèle-là, je dis que dans ma démarche professionnelle, je rencontre les mêmes résistances, je rencontre les mêmes obstacles et se posent les mêmes problèmes juridiques. Et encore une fois, ce n'est pas une question de qualité de soins, ou de qualité de personne, ou de qualité de professionnel, parce qu'il y a des gens admirables qui font la prison, et ils font un métier difficile également. Par contre, on a des difficultés systématiquement. Et on a des difficultés qui sont liées à votre pratique professionnelle, sans que vous soyez en cause en tant qu'individu ou en tant que professionnel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je veux dire, il faut dépasser cette réaction épidermique, parce que c'est pas ça qui est en cause. C'est le phénomène du jeu institutionnel entre l'hôpital, la justice, l'avocat, et nous ne sommes pas là pour provoquer des procès. Nous sommes simplement là pour assister des gens qui nous demandent une aide et éventuellement un conseil. Il ne faut pas nécessairement nous voir comme des ennemis, parce que nous sommes là aussi pour atténuer les ardeurs de certaines personnes qui souhaiteraient à tout prix faire des procédures. Et ça, c'est largement méconnu du grand public. Je veux dire, à l'heure actuelle, ce que nous préconisons, en relation d'ailleurs avec les magistrats et nécessairement avec le ministère de la Justice également, ce sont les modes alternatifs de règlement des conflits. La médiation, le droit participatif, la conciliation, tout ça s'inscrit au fur et à mesure dans la loi. Et ce sont des pratiques professionnelles qui nous viennent du Canada, notamment le droit collaboratif. Ce sont des méthodes douces. Et c'est ça qu'on veut privilégier également. On a toujours dialogué dans ce sens-là. Alors ne voyez pas d'agression dans mon propos et avec le parallèle que j'ai fait entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais là où ça me gêne d'ailleurs, et vous n'êtes pas responsable non plus, mais il y a un certain nombre de détenus qui ne devraient pas être en prison, qui devraient être chez vous. Parce que, et on a beaucoup de difficultés notamment à le faire admettre quand il faut sanctionner des comportements antisociaux à l'intérieur de la prison. Et on passe au prétoire, et manifestement, le détenu n'a pas toute sa tête, pour parler simplement. Donc on va le reconnaître implicitement sans l'écrire dans la décision qui sera rendue. Parce que si on l'écrit, ça veut dire qu'il ne doit pas être en prison. Voilà. Bon, très bien.
J'ai plus que 2 minutes. Mon intervention fait miroir à la vôtre, Monsieur le Président. J'appartiens à une structure qui gère des plateformes graduées de prise en charge à domicile de pathologies somatiques. J'appartiens donc à une structure qui gère des plateformes graduées de prise en charge de pathologies somatiques, des services de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées, les maladies chroniques, les personnes handicapées, l'hospitalisation à domicile. Et ces structures donnent la possibilité entre la ville, l'hôpital, de prendre en charge, d'assurer une continuité de soins et de prendre en charge en fonction de la pathologie, en fonction de son évolution et de mettre le malade somatique au meilleur endroit. Je découvre, parce que ça fait pas très longtemps que je m'intéresse aux personnes en situation de handicap psychique, que ce qui est valable pour les pathologies somatiques ne l'est pas, et votre intervention donc m'a amené, ne l'est pas pour les pathologies, les personnes en situation de handicap psychique. Il y a l'hôpital, il y a les consultations, mais les personnes en situation de handicap, et notamment les proches qui les soutiennent, ne sont pas en capacité d'avoir le même type de prise en charge à domicile. Et là, je découvre petit à petit qu'il y a une inégalité profonde dans notre pays face aux pathologies. Et la différence entre pathologie somatique et pathologie psychique est patente sur ce que vous dites. Et je suis en train de prendre conscience aussi, c'est que les personnes en situation de handicap psychique, à un moment, ont aussi des pathologies somatiques. Et le lien entre les deux me semble du domaine de l'absence à l'heure actuelle. Voilà, ce n'est pas une question, c'est un témoignage qui fait miroir, et c'est la raison pour laquelle la structure dans laquelle qui gère ça commence profondément à s'intéresser à ces inégalités.